Bonsoir, Père Nicolas Sautreau.
Bonsoir à vous tous, heureux de vous retrouver pour continuer notre relecture, notre manière de revivre la veillée pascale. Alors, je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont été frappés par ce symbole du feu qui représente finalement la nature divine, l'être de Dieu, la substance de Dieu. Et il se trouve que le Père Bouillet, dans une petite note en bas de page, assez longue, nous offre des références aux pères de l'Église qui ont développé cette idée que Dieu est un feu et que le feu est l'élément qui nous parle le mieux de l'être de Dieu, de la profondeur de l'être de Dieu, ou avec le mot que nous avons choisi dans le titre, le mystère même de Dieu. L'insondable mystère de l'essence divine. Donc il nous propose d'aller beaucoup regarder Saint Cyrille d'Alexandrie. C'était une des questions que j'ai reçues. Donner des références à des grands théologiens qui ont pu développer cette belle idée. Donc Saint Cyrille d'Alexandrie dans son commentaire sur Isaïe, et puis notre ami le pseudo Denis l'Aréopagite, cette fois-ci dans son livre qui s'appelle « La hiérarchie céleste ». Ce sont les grandes références fondamentales pour méditer sur ce mystère de l'être de Dieu. Oui, l'idée que la nature de Dieu est du feu se trouve dans l'Ancien Testament, et un texte comme le Deutéronome, le chapitre 4, verset 24, qui est cité dans le Nouveau Testament, comme nous l'avions dit dans la lettre aux Hébreux, le chapitre 12, verset 29, « Yahvé, ton Dieu, est un feu consumant. Yahvé, ton Dieu, est un feu dévorant. » Cette citation, ces textes de l'Ancien et du Nouveau Testament nous montrent à quel point parler de Dieu comme un feu, c'est s'approcher très près de la révélation, de la connaissance du mystère même de Dieu. C'était le début de la veillée pascale. Nous retrouvons le cours du texte du Père Bouillet qui nous assure à nouveau que ces cérémonies du feu nouveau et de la lumière du cierge pascal qui éclaire l'Église plongée dans la pénombre, même dans les ténèbres, que tout cela remonte à Jérusalem, à la liturgie de Jérusalem. Il nous redit que, particulièrement, l'adoration de la croix pendant la célébration du Vendredi Saint et ces cérémonies initiales de la veillée pascale portent la marque très caractéristique de la liturgie de Jérusalem des premiers siècles de l'histoire de l'Église. Le patriarche de Jérusalem se rendait le soir du samedi saint dans le Saint-Sépulcre. Il y entrait tout seul, sans aucune lumière, et il en ressortait un instant après avec un cierge allumé qu'il montrait au peuple. Voilà. Bien sûr, lorsque la liturgie se déroule à Jérusalem même, là où les événements se sont historiquement déroulés, la puissance évocatrice est encore plus grande. Ce qui se passe, c'est que le grand symbole, c'est que des ténèbres jaillit la lumière. Des ténèbres apparaît l'énergie divine qui crée et qui sauve et qui glorifie. À l'époque, ça signifie 3e, 4e siècle, ce symbolisme du feu tiré de la pierre et du cierge allumé dans les ténèbres était très impressionnant. Nous avons une nouvelle explication. Voilà, le Père Bouillet nous propose une nouvelle explication qu'il semble favoriser. Et il nous dit, nous avons ici sous une forme très simple, mais très expressive, une représentation de la résurrection du Christ au milieu de la nuit pascale, avec la même insistance sur l'effet de lumière qui irradie les ténèbres du monde. La même insistance que dans les évangiles. Ainsi, dans saint Matthieu, au chapitre 28, voici qu'il se produisit un grand tremblement de terre, un ange du Seigneur descendit du ciel, et s'approchant, il roula la pierre et s'assit sur elle. L'aspect de l'ange était comme celui d'un éclair, et son vêtement blanc comme la neige. Donc, l'ange, qui est le messager de Dieu, qui est le représentant de Dieu, qu'on pourrait appeler le symbole de Dieu, l'ange est brûlant et brillant comme l'éclair, et son vêtement blanc est blanc comme la neige. C'est la lumière qui apparaît dans les ténèbres. Mais le feu tiré de la pierre, c'est quelque chose qui appartient à la vie cultuelle de nombreux peuples autres que le peuple élu à l'époque où ce rite est adopté. Et l'Église des origines n'a pas hésité à s'emparer d'un tel symbole. Et elle le présente comme un présage, une prophétie de l'étincelle divine que Dieu va faire jaillir lui-même du sépulcre du Golgotha en ressuscitant le Christ pour embraser l'univers au feu de sa propre splendeur. Là où nous voyons avant tout une évocation du mystère de Dieu et du mystère de la création, du mystère de la substance de Dieu, de l'être intime de Dieu et de la création voulue par Dieu et opérée par Dieu, le Père Bouillet nous propose maintenant de voir directement dans cette étincelle qui jaillit de la pierre et qui communique son énergie pour embraser l'être de feu, pour donner l'existence à toute la création. Le Père Bouillet nous dit, mais cette étincelle, c'est l'étincelle de la résurrection. L'étincelle de la résurrection du Christ qui va embraser l'univers entier du feu, de la splendeur, de la vie du ressuscité. Donc nous sommes invités à voir, dès le premier instant de la veillée pascale, une célébration toute mystique, toute symbolique de la puissance de la résurrection du Christ, de l'énergie, comme disent les pères grecs, de l'énergie de la résurrection du Christ qui va se communiquer à la création tout entière. Le Seigneur Jésus avait parlé lui-même aux siens du feu qu'il devait allumer sur la terre, et il disait à quel point il lui tardait que ce feu soit allumé. Ce feu, c'est aussi le feu de la résurrection. C'est le don de l'Esprit Saint, telle est l'interprétation la plus générale, mais à la lumière de la liturgie pascale, ce feu que le Christ désire communiquer, c'est sa résurrection. Sa résurrection participable. Sa résurrection non pas pour lui tout seul, mais sa résurrection donnée, livrée et communiquée à tous ceux qui l'accueillent. La flamme qui a jailli au moment où le soleil de justice, le Christ couché dans les ténèbres du monde, se relève et ressuscite. Telle est la flamme. Désormais invincible, le ressuscité va éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. C'est le cantique du Benedictus, le cantique de Zacharie, que nous prions tous les jours, un peu comme le sommet de l'office des Laudes, comme une célébration de la résurrection du Seigneur Jésus. Et c'est ce cantique du Benedictus, le ressuscité qui éclaire ceux qui étaient assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, c'est ce cantique qui donne une nouvelle profondeur au rite de l'étincelle qui jaillit de la pierre pour créer le feu nouveau. Le Christ ressuscité va ainsi faire passer tout l'univers de la nuit de l'éloignement de Dieu au grand jour de la merveilleuse et chaude lumière de la Trinité très sainte. Voilà le deuxième commentaire que nous propose la méditation liturgique au sujet de ce feu. Et nous voyons à quel point le désir de rassembler les deux approches nous permet de vraiment vivre la plénitude de ce qui doit être célébré dans cette veillée pascale. À nouveau, au risque de vraiment trop me répéter, je voudrais vous redire que le père Bouillet est un de ceux qui est à l'origine de la préface de la prière eucharistique numéro 2. Et que c'est en retournant à cette préface que nous voyons comment les différentes strates d'explication de la symbolique du feu et de la lumière, comment ces différentes strates sont vraiment reprises dans la préface. Nous commençons par rendre grâce à Dieu le Père parce que le Verbe de Dieu, la parole vivante de Dieu a créé toute chose. Puis nous rendons grâce pour le mystère de l'incarnation dont nous avons parlé le 25 mars, transporté au 8 avril. Et ensuite, nous rendons grâce pour l'épiphanie de la résurrection, pour le mystère du Vendredi Saint, de la mort sur la croix, et pour l'épiphanie de la résurrection. Nous te rendons grâce parce que Jésus, ton Fils bien-aimé, est ta parole par qui tu as créé toute chose. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. C'est lui à qui tu as demandé qu'il étende ses mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et afin de manifester la résurrection. Nous rendons grâce pour tout cela dès les premières minutes de la veillée pascale. La veillée pascale entre ensuite dans une nouvelle étape, une nouvelle célébration de la lumière, du lucernaire. C'est à proprement parler le moment de l'Eucharistie de la lumière, l'Eucharistie lucernaire. Dans la façon dont nous célébrons aujourd'hui cette Eucharistie lucernaire, c'est bien souvent le célébrant qui va chanter cette Eucharistie. Lorsque le diacre est là, lorsqu'il y a la présence d'un diacre pour la veillée pascale, il revient au diacre de chanter l'Eucharistie de la lumière. Et c'est le célébrant, prêtre ou évêque, qui doit bénir le diacre. Et ce qui nous impressionne, c'est que c'est exactement la même liturgie que lorsque le diacre va aller lire l'évangile pendant la messe habituelle. Donc le diacre s'approche du célébrant, il demande la bénédiction, et la bénédiction va être la même bénédiction, à peu de choses près, que celle qui est donnée à chaque fois que pendant la messe, le diacre proclame l'évangile. « Que le Seigneur soit dans ton cœur et sur tes lèvres, afin que tu annonces dignement et saintement sa louange pascale, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Au lieu de dire que tu annonces l'Évangile, il faut dire à ce moment-là que tu annonces la louange pascale, sa louange pascale. Et tel est un des très beaux noms qui est donné à cette Eucharistie de la lumière, la louange pascale. Le diacre ayant reçu cette bénédiction va se rendre à l'endroit où est proclamé habituellement l'Évangile, ce qu'on appelle l'ambon de l'Évangile. montrant encore une fois la proximité entre la proclamation de l'Évangile et la proclamation de l'Eucharistie de la lumière. À ce moment-là, la colonne de cire est proche de l'ambon de l'Évangile. C'est l'emplacement que l'on va donner de préférence au cierge pascal, au moins pendant la veillée pascale. Ensuite, il y a une certaine latitude qui est donnée pour accorder une place encore plus visible, encore plus centrale au cierge pascal, mais pendant cette louange de la lumière, il est vraiment beau que la colonne de cire enflammée soit là juste à côté de l'ambon où est proclamée cette grande Eucharistie. Normalement, il y a la possibilité qu'un autre diacre se tienne juste à côté avec la croix et encore un autre diacre avec l'encens, avec cet encens, l'encensoir dans lequel sont, vous en souvenez, des morceaux du feu nouveau, des morceaux de charbon incandescent qui viennent du feu nouveau. Pendant longtemps, c'est très intéressant comme remarque, le diacre avait la mission de composer lui-même le chant d'allégresse qu'il entonnait à ce moment-là. Toujours les mêmes thèmes qui d'ailleurs sont passés dans notre chant fixé de ce qu'on appelle l'exultète, puisque le mot doit venir, exultète, qu'exulte. Les mêmes thèmes, souvent les mêmes mots, mais néanmoins une improvisation. Et d'après les meilleurs connaisseurs, les meilleurs savants dans ces questions-là, c'est peut-être bien le dernier cas où la possibilité d'improviser une prière a été laissée à un officiant. Nous savons que c'est aux alentours du IIIe siècle que les textes liturgiques vont être libérés de l'improvisation pour vivre une sélection très rigoureuse. On ne gardera que les meilleures productions. Il va vraiment y avoir un choix qui va être fait un petit peu dans le temps et aussi dans la géographie pour ne garder que la qualité maximum, que ce qui faisait pratiquement l'unanimité parmi les chrétiens en disant « cela c'est un beau chant, cela c'est une belle prière » et nous allons demander à l'évêque ou au concile de fixer cette prière, qu'il aille chercher les meilleurs théologiens pour qu'ils composent ou recomposent cette prière que nous utilisons déjà depuis un certain temps, et ensuite la prière sera fixée. Eh bien, pour le chant de l'exultète, les choses ont duré plus longtemps que pour les autres parties de la liturgie, et il y a eu cette coutume d'accorder au diacre non seulement la possibilité, mais la mission de composer et d'improviser librement le grand chant du cierge pascal, de la lumière et de l'annonce de la résurrection. Aujourd'hui, le texte a reçu une forme très achevée, et même si une pieuse légende nous dit qu'il aurait été composé en même temps par saint Augustin et par saint Ambroise de Milan, justement dans l'improvisation, qu'ils se seraient répondus l'un à l'autre dans une espèce de surenchère de louange, et que autour des notaires, des tachygraphes auraient recueilli l'improvisation de saint Augustin et de saint Ambroise, même s'il y a cette pieuse légende, nous savons que le texte de l'exultète tel qu'il nous est conservé, est le fruit d'un travail littéraire, spirituel et théologique extrêmement long et approfondi. Les premiers mots du texte sont extrêmement importants. C'est, et le père Bouillet va beaucoup insister là-dessus, avec raison, c'est une invitation solennelle à la joie. Les premiers mots, c'est exulter de joie. Exulter. Et ceux qui doivent exulter en premier, ce sont les anges. Une invitation faite dans la tradition de l'Ancien Testament, comme dans celle particulièrement des pères grecs, une invitation faite aux cohortes des anges, à l'armée des anges, à venir avec nous dans l'église, dans la basilique, et à exulter, et pratiquement à nous apprendre à exulter et à nous entraîner dans leur propre joie. Le texte dit en effet que la troupe des anges exulte dans le ciel, que les divins mystères exultent, que la trompette du salut résonne pour la victoire d'un si grand roi, que la terre se réjouisse, illuminée d'un tel éclat, et qu'elle sache que la nuée s'est dissipée qui enveloppait l'univers, que l'Église notre mère se réjouisse aussi, resplendissante de ses rayons, et que ce temple retentisse des cris de joie du peuple. L'invitation à la joie. Et nous pouvons être touchés par le fait que chaque journée liturgique commence par la même invitation. Le psaume 94, nous pouvons facilement le traduire de cette manière. Venez, réjouissons-nous dans le Seigneur. Venez, exultons de joie dans le Seigneur. C'est comme ça que commence toute journée liturgique. Venez, exultons de joie dans le Seigneur. Et c'est comme cela que commence la partie parole de la veillée pascale, la partie prière au sens le plus fort du terme, avec cette Eucharistie, cette préface pascale en l'honneur de la lumière. Qu'exulte, ce qui pourrait bien se dire exulter. Aussi, mes frères très chers qui êtes ici, continue le texte, en face de la splendeur si merveilleuse de cette sainte lumière, je vous en prie, invoquez avec moi la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. C'est encore un signe de très haute antiquité que cette demande de prière de la part du diacre ou de la part du célébrant. Lui qui a daigné, non à cause de mes mérites, mais par sa grâce, me compter au nombre de ses serviteurs, répandant sur moi la splendeur de sa lumière, que Dieu me rende capable d'accomplir la louange de ce cierge, par notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, qui avec lui vit et règne dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. L'Évangile lui-même va nous donner comme un commentaire de cette exultète. Le Seigneur Jésus, dans le chapitre 16e de l'Évangile selon saint Jean, avait annoncé: En vérité, je vous le dis, vous pleurerez, vous vous lamenterez, tandis que le monde se réjouira. Prophétie du Vendredi Saint. Vous serez affligés, mais votre affliction sera changée en joie. C'est la joie pascale. La femme, lorsqu'elle enfante, est dans la souffrance parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de ses douleurs dans la joie de ce qu'un homme est né au monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et nul ne vous ravira votre joie. Oui, le moment est venu avec la résurrection du Sauveur, avec le mystère du baptême qui va être célébré ensuite, de se réjouir d'une joie surabondante, d'où l'invitation à la joie. Une invitation qui va retentir un peu plus tard dans la veillée pascale, au moment de l'annonce de l'Alléluia. Les mots précis sont les mêmes. Je vous annonce une grande joie qui est Alléluia. Annuncio vobis gaudium magnum quod est Alléluia. Et qui est reprise pour l'élection du pape. Je vous annonce une grande joie. Habemus papam. C'est l'invitation à la joie qui traverse finalement toute la liturgie catholique. Cette joie, comme la paix du Christ, n'est pas telle que le monde la donne, mais c'est la joie du Christ. C'est sa joie, c'est la joie de Dieu. C'est une invitation à partir des anges à entrer dans la joie même de Dieu. Nous pouvons mesurer toute la portée de cette inspiration de l'Église qui fait commencer la veillée ultime de ceux qui se préparent au baptême par une invitation à la joie. Elle leur dit, à eux en particulier, le baptême va vous insérer dans le Christ ressuscité, soyez déjà dans la joie. C'est un trait partout repérable que cette joie débordante, même au milieu des persécutions, puisque ceux qui participaient à cette veillée pascale, qui demandaient et recevaient le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, savaient qu'il y avait le risque du martyre à cause de leur baptême. Et malgré cette perspective, ce risque du martyre, il y a la joie débordante, la fraîcheur et la jeunesse de la participation à la résurrection du Christ. Alors, le père Bouillet, à ce moment-là, quitte le champ précis de la veillée pascale et nous offre une petite incise, comme il aime beaucoup en faire, où il va répondre aux philosophes. Il dit « Quel contresens que de voir dans le christianisme authentique une religion sévère et triste, ou d'imaginer une vie particulièrement pieuse comme une vie endeuillée. La vie chrétienne est austère, certes. Elle exige des temps de pénitence et en tout temps elle demande le renoncement. Mais ces austérités sont une purification qui doit faire fleurir la joie inflétrissable. Ces renoncements sont une libération. La vie chrétienne ne nous apprend à nous priver que pour nous donner la vraie possession, la possession de Dieu, de la vie éternelle. Et ce n'est pas un trésor inhumain qu'elle nous ouvre, mais ce sont les divines richesses qui restaurent et transfigurent toutes les vraies richesses créées, qui sont alors illuminées de la présence incréée de Dieu. Quel contresens! Et la liturgie même de la veillée pascale est là comme pour apporter un démenti immense à une telle vision de la vie chrétienne et de la foi chrétienne. Cette joie que le diacre chante avec l'exultet, c'est la grande joie cosmique, la joie du monde régénéré auquel l'homme réconcilié avec lui-même se retrouve uni dans leur commune union à leur Créateur. C'est comme nous l'avions déjà entendu, la joie de la réconciliation dans le mystère, la réconciliation pratiquement infinie, parce que c'est la réconciliation de toute chose avec Dieu le Père, avec Dieu le Créateur. À la résurrection, les anges eux-mêmes doivent exulter, parce que l'ombre qui s'est étendue avec la chute sur une partie de l'œuvre de Dieu, cette ombre est dissipée par la résurrection du Christ. Saint Cyrille d'Alexandrie, encore une fois, surtout dans son commentaire sur Isaïe, va s'étendre sur le thème de la joie des anges voyant le salut de l'humanité. La joie des anges lorsqu'ils voient la résurrection du Seigneur Jésus qui opère le salut de l'humanité. La réconciliation se fait aussi avec tout le monde angélique resté fidèle, qui avait été comme séparé de l'humanité par le drame du péché. C'est vraiment la joie de la réconciliation de toutes choses, y compris la matière, y compris le monde inanimé, la réconciliation de toutes choses avec Dieu dans sa bonté infinie. La terre tout entière doit tressaillir de joie, car la vanité du démon à laquelle elle avait été assujettie par la faute est réduite à néant, et la création retrouve la liberté dans la gloire des enfants de Dieu. Mais par-dessus tout, l'Église se réjouit, car la résurrection du Christ lui communique cette inépuisable fécondité qui va lui donner d'engendrer dans la lumière, dans le baptême, des personnes sans nombre. C'est la grande déclaration du livre de l'Apocalypse au chapitre 21e. Les premières choses sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Cette joie de l'univers tout entier, c'est ce que veut exprimer d'une façon extrêmement puissante la préface de Pâques, la grande préface du mystère pascal, qui va arriver bien plus tard dans la veillée avec la partie du sacrifice eucharistique et que nous allons entendre pour la première fois avant qu'elle ne puisse être répétée pendant tout le temps pascal et qui se termine avec cette évocation de l'univers tout entier qui est rayonnant de la joie pascale et qui exulte. Le mot « exulter » est repris dans cette préface de Pâques. Et il s'agit d'une joie, un rayonnement de joie qui saisit la création tout entière. Tel est le commencement de l'exultète. Et là, avec un génie liturgique saisissant, la célébration va connaître une espèce de rupture et aussi une forme d'anachronisme. Quelque chose qui ne devrait pas intervenir à ce moment de la cérémonie apparaît d'un seul coup. Nous étions dans le déroulement de cette mélodie de la louange de l'exultète. Et tout s'arrête, alors que l'exultation monte en puissance, tout s'arrête, et à nos oreilles retentit ce dialogue tellement connu, ce dialogue qui appartient tellement à notre culture liturgique, de la préface eucharistique. Et avec les mêmes notes, avec les mêmes mots, nous avons l'impression d'être déjà aux portes de l'Eucharistie, aux portes des paroles de l'institution « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Le diacre ou le célébrant chante « Le Seigneur soit avec vous ». Nous répondons « Et avec votre esprit ». Puis élevons notre cœur. Et là, encore une fois, c'est la beauté de l'habitude vertueuse de la liturgie. Nous répondons, nous le tournons vers le Seigneur. Mais toutes choses prennent une dimension nouvelle et différente. Il s'agit d'élever notre cœur vers la lumière de la résurrection et de tourner notre cœur vers le Christ ressuscité. Et puis les mots de l'Eucharistie, faisons Eucharistie au Seigneur notre Dieu, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, et nous répondons, cela est juste et bon, cela est digne et juste, cela est digne, équitable et véritable. Et grâce à cette forme d'astuce liturgique, nous saisissons qu'il va vraiment s'agir d'une Eucharistie. Une Eucharistie à la lumière. Ce ne sera pas l'Eucharistie sacrificielle avec le corps et le sang du Seigneur Jésus, c'est une autre Eucharistie qui nous est offerte pendant cette veillée pascale. Et pour continuer sur cette sorte de fiction eucharistique, eh bien le diacre, avec la même mélodie, va chanter « Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, de te célébrer avec tous les sentiments du cœur et de l'esprit, avec la voix même, de te célébrer, de célébrer le Dieu invisible, Père Tout-Puissant, son Fils unique, notre Seigneur, lui qui a payé pour nous au Père éternel la dette d'Adam, effacé miséricordieusement par son sang l'obligation contractée par l'antique péché. » Voilà. Et là, à nouveau, une sorte de rupture où nous allons être dans la description du mystère. C'est ici, en effet, la fête pascale où, véritable agneau, il est mis à mort, celui par le sang duquel sont consacrées les portes des fidèles. C'est ici la nuit où d'abord tu as fait passer à pied sec la mer rouge à nos pères, les fils d'Israël échappés à l'Égypte. C'est donc la nuit qui a balayé les ténèbres du péché par l'illumination de la colonne de feu. Ce que nous venons de vivre corporellement, physiquement, avec le feu nouveau et l'entrée de la lumière dans la nef plongée dans les ténèbres, est repris dans la louange de l'Eucharistie de la lumière. Il s'agit de donner un sens profond, un sens liturgique, biblique et mystique à ce qui vient d'être célébré. C'est ici la nuit qui aujourd'hui, pour tout le monde, rend à la grâce, c'est le pardon des péchés, le baptême, associe à la sainteté ceux qui croient au Christ et qui ont été séparés des vices du siècle et des ténèbres du péché. C'est ici la nuit dans laquelle le Christ, ayant détruit les liens de la mort, est remonté victorieux des enfers. Puis, un accent poétique à nouveau très puissant, à quoi aurait-il servi de naître sans le bienfait de la rédemption? C'est une phrase des spirituels des origines de l'Église. À quoi bon naître sans la résurrection du Christ? À quoi bon être appelé à la vie si la rédemption ne nous permet pas d'accéder à la vie éternelle? Ô merveilleuse condescendance de ta miséricorde envers nous, ô inestimable charité dont tu nous as aimés, tu as livré ton fils pour racheter ton esclave. Et le moment tant chéri par saint Augustin, ô péché d'Adam, vraiment nécessaire, qui a été effacé par le Christ, ô bienheureuse faute qui a pu avoir un tel rédempteur. Felix culpa, ô bienheureuse faute qui a pu avoir un tel rédempteur. Ô nuit vraiment bienheureuse qui seule a pu connaître le temps et l'heure où le Christ est ressuscité des enfers. C'est ici la nuit dont il est écrit, la nuit sera illuminée comme le jour, la nuit a été ma lumière dans mes délices. Que la sanctification de cette nuit mette donc en fuite les méfaits, qu'elle lave les fautes, qu'elle rende l'innocence aux déchus, la joie aux misérables, qu'elle mette la haine en fuite et attire la concorde, qu'elle abatte les tyrannies. Dans cette grande poésie, qui est aussi sainte que les autres poésies de la liturgie, comme les psaumes, dans cette grande poésie est exprimé le fait que la nuit de la veillée pascale est un sacramental, qu'il y a des grâces très particulières qui nous sont communiquées par l'Église en état de célébration liturgique pour ceux qui participent à la veillée pascale, qu'il y a des grâces d'illumination et de libération. Et pour notre grand bonheur, Ces grâces ne sont pas comme enfermées dans les minutes de la veillée pascale, mais ces grâces, nous pouvons aller les rechercher, nous pouvons demander au Seigneur d'appliquer ces fruits, d'appliquer ces grâces dans les semaines qui suivent la liturgie de la veillée pascale. C'est ce que, si vous voulez, dès ce soir, nous pouvons demander avec grande confiance au Christ ressuscité.
Merci Père Nicolas Sautreau et nous vous retrouverons la semaine prochaine.
Avec grande joie, exultons.
Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous étions dans l'émission Mystère et Sagesse avec le Père Nicolas Sautreau. Aujourd'hui, nous parlions de l'Exultet et si vous souhaitez réécouter cette émission en podcast, n'hésitez pas à le faire sur notre site radiomaria.fr.